La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Dans la région de Banneux, en tout cas, Verviers. L'IPPJ de Frépont, donc c'est l'institution publique de protection de la jeunesse.
Là, nous nous trouvons devant la section accueil, qui est le premier bâtiment d'hébergement que nous avons reconstruit, et qui, comme l'ensemble des futurs lieux d'hébergement, est composé à la fois d'une forme de foyer, par sa forme enveloppante, qui est le lieu du partage de cette petite collectivité d'une dizaine ou 12 jeunes. Et ce foyer est à la bordure du sous-bois, donc il est entre le sous-bois et le grand vide, alors qu'à l'arrière se développe au sein du sous-bois la zone des chambres, qui elle est organisée autour d'une zone de circulation qui est scandée par des moments de rencontre privilégiés avec le sous-bois. Il y a des moments de lumière latérale et qui fait de ce lieu de cheminement vers les chambres, non pas un couloir au caractère carcéral comme les anciens bâtiments, mais un lieu plutôt d'une promenade et parfois d'étonnement, puisque rien n'empêcherait un écureuil de venir s'approcher de la fenêtre. Et puis il y a ces moments tellement sublimes de la rosée du matin au mois de septembre qui sont proposés par la présence de ces ouvertures.
Et Dominique Hélin, vous êtes la directrice ?
Oui, un domaine qui date maintenant des années 70. Enfin, une partie des bâtiments date des années 70 et leur état justifie en tout cas une rénovation. Il y a un projet de rénovation de l'ensemble du site. Hormis le château, qui est la pièce centrale, on peut dire, autour desquelles ont été construit divers pavillons pour les jeunes adolescents qui y sont placés.
C'est pour ça que j'ai été la première fois en IPPJ. Maintenant ici, une fois qu'on rentre dans l'engrenage IPPJ et juge et tout, si on respecte pas les conditions ou quoi, on est vite ramené ici. Quoi. Donc de base, je suis ici pour ça. Maintenant, j'ai été libéré entre temps et j'ai pas respecté les conditions que la juge m'a imposé, et donc malheureusement on m'a remis ici pour ça. Maintenant mon dossier va passer au parquet et tout pour voir ce qui va se dire, mais normalement je devrais juste avoir une simple réprimande, ce que mon avocate m'a expliqué, mais ça pourrait aller d'une réprimande jusqu'à des travaux d'intérêt généraux et peut-être une remise en IPPJ, mais vu que j'y suis déjà au moment où ça va se passer et que j'ai... Là, ça fait déjà 6 mois que je suis ici par rapport à mon non-respect de conditions, je pense que normalement, ça devrait pas se faire un retour en IPPJ après ma libération, qui devrait s'effectuer mi-décembre.
Architecture. Institution publique de protection de la jeunesse à Frépont. Avec Dominique Hélin, directrice, Daniel Delgoff, architecte, Françoise Chêne, artiste, ainsi que des jeunes de l'institution.
On a réfléchi à une reconstruction, vraiment un projet réfléchi d'organiser les bâtiments d'une manière différente et plus intégrée à la problématique aussi des jeunes placés dans l'IPPJ.
Et à une fois, j'entends. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Donc.
Vous allez où?
11e.
Ces lieux nous parlent.
Le site que nous sommes en train de restructurer s'étend à perte de vue autour de vous. Il comprend un certain nombre de bâtiments qui sont vétustes et qui doivent être remplacés. Et donc nous avons un chantier qui va s'échelonner sur quelques années, avec un système de fonctionnement en tiroir où on construit un bâtiment pour pouvoir en libérer un autre, le démonter, en reconstruire un nouveau, etc. pour que l'ensemble de l'infrastructure soit rénovée après ce cycle de 3-4 chantiers. Un élément qui est remarquable et qui nous a interpellé dès l'arrivée sur le site, c'est sa dimension paysagère. Parce qu'on a un lieu qui est à la fois vaste, qui est verdoyant, avec des perspectives lointaines, et donc qui à la fois permet des lieux intimes, des lieux peut-être apaisants, il y a des sous-bois, etc. Et en même temps, il y a des perspectives qui nous reconnectent avec le monde, ou en tout cas avec des espaces plus éloignés. Bonjour. Et donc, bonjour.
Un mot, Dominique Hélin, sur cette question problématique de ces jeunes.
Les jeunes qui sont placés à l'IPPJ de Frépont, ce sont des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction. Ce sont des jeunes qui sont ici pour à la fois réfléchir sur leurs problématiques, qui sont souvent des problématiques vraiment très complexes et beaucoup plus larges que seulement aussi le fait du fait qu'ils ont commis. Les jeunes qui sont placés ici donc, sont là d'une part pour réfléchir à ce qui les a amenés ici, à leur délinquance, mais donc il y a toute une problématique autour qui est celle des difficultés familiales, sociales, d'intégration de la société en général. Le travail qui va être mené ici à la fois par les éducateurs, par les formateurs, c'est de travailler à la réinsertion du jeune dans le milieu de vie ordinaire, habituel, si c'est possible. Dans la majorité des cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, ce qui ne sera pas toujours possible. Et donc le cadre ici va leur permettre de réacquérir toute une série d'habitudes.
Architecture. Institution publique de protection de la jeunesse à Frépont.
Avant de déposer une candidature, je suis venu me balader. Et très vite, j'ai compris que le mouvement sur le site, le déplacement, était un élément assez singulier et très significatif. Et la lecture du cahier des charges a aussi établi très vite une connexion entre ces déplacements et le projet éducatif, pédagogique, au sens où il y a une idée très claire de soutenir ces jeunes, de les aider à retrouver des repères. Et là, le pas, celui que nous sommes en train de faire là à l'instant, et me semble être pouvoir intervenir de façon assez intéressante dans le sens où il permet d'aller d'un lieu à un autre, d'aller de l'endroit où on dort à l'endroit où on mange, à l'endroit où on apprend, à l'endroit où on pratique du sport. Et que ce parcours-là est peut-être connectable au cheminement intérieur, au cheminement que le jeune peut faire, accompagné par les encadrants de l'institution, avec l'espoir que, très clair, que ces jeunes puissent y voir un peu plus clair dans un certain nombre de repères qui leur permettent de se sentir peut-être mieux dans la société. Et l'espoir au-dessus de tout ça, c'est qu'ils ne reviennent plus ici. Que ce temps puisse être un temps réparateur.
Avec Dominique Hélin, directrice, Daniel Delgoff, architecte, Françoise Chêne, artiste, ainsi que des jeunes de l'institution.
Tout ce qui était antisocial, c'est de le rendre pro-social, de travailler sur l'image de soi du jeune, puisque ce sont des jeunes qui, très souvent, ont une mauvaise image d'eux-mêmes, une faible estime d'eux, de leurs compétences, de leurs capacités, des possibilités qui peuvent s'offrir à eux. Ce sont des jeunes qui ont des difficultés, souvent, au niveau relationnel. Donc on va aussi travailler les relations avec leurs collègues, avec les autres jeunes qui vont fréquenter, avec les adultes qui vont les encadrer pendant toute la durée de leur placement.
Architecture, IPPJ de Frépont par Thierry Génico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Et donc, ça nous amène à une autre considération, c'est la notion du vide, puisque finalement, ce qui m'intéresse avant tout n'est pas tant la matière, mais surtout le vide dans lequel les gens vont vivre, vont pouvoir s'épanouir et éventuellement faire un brin de chemin ensemble. Ce vide, ben, il est, en particulier ici, il est le vide extérieur. Celui de tous ses parcours, de ses allées d'un endroit à un autre, ces cheminements qui accompagnent le processus.
Déplacement qui varie suivant la section où il se trouve, entre 15 jours pour des petits placements pour des jeunes qui généralement sont à leur premier placement, ou des placements qui peuvent durer entre 3, 6, 9, parfois 2 ans quand il y a vraiment des problématiques familiales qui sont extrêmement importantes, et donc souvent quand il n'y a plus de famille ou pas de famille disponible pour les accueillir et les encadrer de manière adéquate.
Quand on a démarré ce projet, plutôt que de penser à un bâtiment, on a surtout pensé à un grand vide central. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui est peut-être un peu énigmatique parce qu'il y a des bâtiments anciens, des bâtiments provisoires, mais tout ce lieu sera un grand vide autour duquel vont se disposer l'ensemble des espaces, sport, atelier, manger, administration, dormir, les foyers. Et alors, là où nous sommes arrivés, on comprend bien qu'il y a une topographie assez marquée, avec une situation initiale qui a ceci de particulier, que les jeunes sont dans des espaces d'hébergement qui sont en contrebas du château, qui a lui-même une sorte de puissance et qui est le lieu aujourd'hui de l'autorité, de la coercition. Enfin. Et donc du coup, ça me semblait aussi intéressant par notre action de proposer un rapport qui soit corrigé, qui soit revu à cet égard. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé d'implanter les foyers, qui est peut-être l'endroit, comme son nom l'indique, de l'apaisement pour les jeunes, de le situer en partie haute du site, c'est-à-dire à la même altitude que le château, à la même altitude que le bureau de Madame la directrice, de telle sorte qu'il y ait au niveau du regard une sorte d'horizontalité et supprimer cette verticalité qui existe aujourd'hui. Et dans ce rapport à l'autorité, ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est de réinterroger la question de ce château, ce bâtiment château qui a sans doute été construit à l'époque par un capitaine d'industrie de la laine, comme il y en a beaucoup en région, ici dans la vallée de la Vestre, dans la région de Verviers. Ce qui nous semblait intéressant aussi, c'est de s'interroger sur l'affectation des locaux. Aujourd'hui, les jeunes prennent le repas dans des petits locaux qui sont un peu en marge des lieux un peu emblématiques d'accueil dans ce château. Et nous avons proposé une inversion, à savoir que le lieu le plus intéressant, avec la plus belle vue, avec les plus belles fenêtres, soit le lieu des repas des jeunes, parce qu'on se disait que là, c'est aussi une façon de les amener à avoir un rapport à ce lieu-là et au lieu où il y a aussi les gens qui dirigent cette institution, une sorte de rapport d'équilibre, en tout cas, avec un rapport peut-être déstigmatisé. Et le lieu du repas, parce que c'est un lieu où on a assouvi un besoin fondamental qui est peut-être débarrassé de tout rapport à autre chose que ce besoin ou ce plaisir. Et donc ça nous semblait important d'installer les salles à manger des jeunes là, dans ces lieux les plus, peut-être les plus emblématiques du bâtiment.
Est-ce un lieu ouvert? Est-ce un lieu fermé? Où il y a des sections ouvertes et des sections fermées.
Il y a les deux. Il y a
Dominique Hélin.
Trois sections pour des jeunes qui sont en milieu ouvert, pour des séjours de 3 à 6, 9 mois. C'est une moyenne 6 mois. Et puis il y a un milieu fermé également.
Daniel Delgoff, en venant ici, je me suis demandé si je n'allais pas titrer l'émission Architecture de l'enfermement. Et à vous écouter, j'inverserai les choses. Je dirais architecture de l'ouverture.
La découverte de cette question de l'IPPJ nous a tout de suite interpellés parce qu'il y a une idée assez particulière dans le fait que les jeunes sont astreints à rester dans l'institution. C'est une décision du juge. Et en même temps, le lieu, c'est-à-dire le centre ouvert, parce qu'il y a également un centre fermé, mais là nous sommes dans le centre ouvert, les jeunes sont astreints à résidence et en même temps, il n'y a pas de dispositif physique qui les empêche de sortir d'ici. Donc il y a une situation qui est assez étrange, d'un enfermement, mais dans un lieu qui est ouvert, à la fois par rapport au site global, mais aussi par rapport à la question de la chambre, par exemple, cette idée étrange de l'obligation de rester, de l'interdiction de sortir, et en même temps de ces limites qui sont au niveau du site global. Les limites physiques ne sont pas marquées, par contre dans les chambres elles sont marquées, et dans les chambres là, on travaille notamment sur la tentative de rencontrer les obligations de sécurité, mais en ne les laissant pas apparaître, de telle sorte que le jeune puisse percevoir une fenêtre normale, qu'il puisse avoir au travers de cette fenêtre, qui est simplifiée dans son expression, un rapport à l'extérieur, au sous-bois, à la rosée du matin, et que la notion de l'enfermement ne puisse pas être visible, en tout cas d'une façon explicite. Un programme extrêmement riche et qui contient cette sorte de contradiction. On a aussi travaillé là-dessus, sur cette question-là, en ce qui concerne notamment le premier pavillon reconstruit, le pavillon d'accueil. C'est un endroit où les jeunes ne viennent que 2 à 3 semaines, normalement. Et nous l'avons situé en bordure de la composition globale, comme si les jeunes n'entraient pas tout à fait dans l'institution, pas tout à fait dans le lieu sécurisé, mais puissent rester en bordure, prêts à ressortir. Et donc, depuis cette implantation, les jeunes ont en permanence une vue vers l'entrée, qui est aussi la sortie qui est promise dans quelques jours. Et donc, à chaque moment, ou à plein de moments, cette question de l'astreinte, et de l'ouverture, de la fermeture et du monde extérieur se posent.
C'est sensiblement les mêmes jeunes, mais ce sont des jeunes qui sont réfractaires à une prise en charge en milieu ouvert, qui n'acceptent pas ce qu'on leur propose et donc qui fuient le travail qu'on envisage de faire avec eux. Et donc la fuite empêche évidemment le travail. Et donc ces jeunes-là, souvent, se retrouvent alors dans le milieu fermé, puisque là, il y a la contrainte de l'enfermement et des murs.
En fait, l'institution comprend parmi ses activités un atelier d'hypothérapie avec un cheval qui est actuellement en dehors du site même et que nous avons proposé de ramener à peu près là où se trouve l'atelier derrière nous. Le cheval, à l'avenir, sera lui aussi au sein de la couronne autour du grand vide central et fera partie des êtres qui occupent ce lieu.
Ceci dit, même le milieu fermé, on essaie d'ouvrir le jeune vers l'extérieur. Enfin, c'est dans le projet. Donc, ça n'est pas un enfermement strict pour la durée de leur séjour, qui là varie de 3 à 6 mois.
Qui décide qu'un jeune va venir ici ? Est-ce le juge ?
C'est le juge. C'est le juge qui, au vu de la problématique du jeune, qui va voir un peu son parcours, les expériences qu'il a pu tenter avant, va estimer que ça se justifie un milieu bref de 15 jours ou bien un placement en section éducation, donc ça c'est le milieu ouvert, ou bien en milieu fermé.
Daniel Delco.
Le rapport au paysage, il est aussi visuel, il ne peut pas être que cela, mais il l'est également. C'est la raison pour laquelle les lieux d'hébergement sont situés en bordure du sous-bois, parce que là, le rapport au sous-bois va permettre une forme de quiétude, des zones de pénombre, de lumière plus subtile, et donc un lieu plus apaisant. La salle de sport, elle se trouve dans un lieu où on va pouvoir se trouver un peu en altitude par rapport aux arbres et donc là avoir un rapport à la forêt qui est au niveau de la couronne des arbres. Et par ailleurs, il y a un espace qui est en train de se développer tout près d'une des sections où là il y aura un espace de potager qui n'est pas encore élaboré aujourd'hui, mais on est en train de préparer ce qu'il faut pour pouvoir développer cette activité probablement pour la saison prochaine.
Dominique Hélin.
Juge qui peut parfois, après le placement d'un jeune, et même souvent être à l'écoute des propositions des équipes éducatives ici. Il y a des rencontres régulières avec le juge qui se tient au courant de l'évolution du jeune sur divers plans, sur le plan de sa réflexion, sur le plan de ses relations familiales, sur tous les plans qui sont travaillés ici. Et donc va écouter aussi les propositions de l'équipe éducative.
Dans le fait de rassembler autour d'un vide les différentes activités, les différents temps de la journée.
Alors moi je travaille sur les droits de la liberté et tout ce qui est donc tout le monde, les migrants, qui sont pas obligés de rester dans la pauvreté, dans l'inégalité et tout ce qui est dans les problèmes de guerre. J'ai choisi le projet là avec madame de faire partie parce que voilà, c'est quand même important, on n'en parle pas beaucoup. Exemple, il a la Syrie, ça on en parle beaucoup. Maintenant tout ce qui est immigration dans l'Amérique centrale et du Mexique, on en parle un peu moins. Et voilà, j'ai voulu représenter donc ce projet là en faisant le mur des États-Unis et que voilà, ça allait être le Mexique qui a payé et que c'est pas normal.
Un atelier de création avec des gens. Et j'aime bien travailler avec des gens pour leur permettre à la fois de rentrer dans mon travail et moi de leur donner des poches de possibles pour exprimer des choses. Et donc ici, on est à l'IPPJ de Frépont. Donc c'est un centre de rééducation pour des jeunes délinquants de 12 à 18 ans. Ils arrivent d'ailleurs, on commence à les entendre là derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait ? C'est un ensemble d'œuvres qui vont être placées sur la propriété de l'IPPJ, où il y a plusieurs bâtiments. Et ce qu'on fait précisément en ce moment, c'est toute la façade d'un château qui va être rénové. Un panneau qui mesure 4 mètres sur 12, qui exprime une espèce de grand arbre de vie, dont les feuilles sont des invitations pour ces jeunes, précisément. Et l'ensemble a été fait à partir du plan de la propriété que Daniel Delgoff, l'architecte, a redessiné complètement.
Et en un mot, Dominique Hélin, cette équipe est constituée, j'imagine, de psychologues, d'éducateurs et...
Des formateurs, puisque le jeune qui est ici suit quand même une formation qui n'est pas qualifiante, mais qui va permettre aux jeunes de se réhabituer au processus scolaire. Donc ils vont avoir des cours généraux, français, maths. Ils peuvent participer à toute une série d'ateliers qui varient suivant ils sont en milieu fermé ou en milieu ouvert. Ils sont encadrés aussi par psychologues, assistants sociaux. Nous avons aussi une psychiatre, un médecin généraliste et des conseillers philosophiques. Pour la nuit, ce sont des surveillants alors qu'ils les prennent en charge.
Et vous-même, vous êtes psychologue?
Je suis psychologue de formation, oui. J'ai travaillé antérieurement dans une autre IPPJ, puis psychologue dans cette institution-ci, dans le milieu fermé, et puis à la direction, oui.
Architecture. Institution publique de protection de la jeunesse à Frépont. Avec Dominique Hélin, directrice. Daniel Delgoff, architecte. Françoise Chêne, artiste. Ainsi que des jeunes de l'institution.
Les jeunes arrivent ici, tous me disant toujours la même chose. « Madame, je ne sais pas dessiner. » Béatrice, ils peuvent rentrer, ils peuvent travailler, s'installer. Voilà. Rebonjour les garçons. Alors regardez par terre, là sont des éléments qui ont déjà été peints, réalisés et cuits au four. Le four est dans la partie fermée du surf et on les a ressortis aujourd'hui. Chaque jour on fait une fournée et le lendemain on les enlève. Et ça sont des travaux qui sont en cours par les jeunes.
C'est quoi qu'on met par-dessus avant de passer au four ?
Alors on met rien par-dessus, c'est de la peinture, d'un oxyde. Voilà, vous voyez ici c'est la peinture. Là, on peint avec des pinceaux, toutes sortes de pinceaux, plus grands que ça. Ça, ça a déjà été cuit.
D'accord.
Moi, ce que j'ai fait tout cet été dans mon atelier à Paris, c'est que j'ai peint les espaces dans lesquels les jeunes sont en train de peindre maintenant. Voilà. Il y en a 60, 2 fois 30. Et donc, ceux qui sont par terre, il faut faire attention. Fais attention, Anat.
Sur la fresque de François Shane, j'ai choisi le premier article sur le droit de la personnalité. Tout le monde a le droit d'avoir avoir sa propre personnalité et avoir ses propres choix et ses propres convictions. Et moi, par rapport à cet article-là, j'ai choisi de mettre en avant les LGBTQID+, le plus qui signifie tout le monde. LGBTQD de base signifie lesbienne, gay. Donc LGB, bi, donc ceux qui ont les deux attirances sexuelles, les trans, les queer, donc ce que je suis, I am queer, queer presence, D pour diversité, et le plus c'est vraiment pour englober tout le monde. J'ai vraiment choisi ça parce que je trouvais que c'était un droit qui devait absolument se faire entendre et se faire respecter par tout le monde, parce que je pense que si certaines personnes ont le droit d'être heureux, on va dire dans la normalité des choses, comme les gens le disent maintenant, c'est un homme et une femme. Si un homme et une femme ont le droit d'être heureux, deux hommes comme deux femmes, ou même quelqu'un de transformé, ou même d'intersexe ou quoi, a totalement le droit d'être heureux comme il le souhaite. Donc c'est ça que j'ai voulu surtout faire passer comme message par la première fresque que j'ai faite. Puis j'ai fait une deuxième fresque sur le 30e article, le droit de faire respecter chacun de ses droits. Donc les 30 articles doivent se faire respecter par tout le monde. Et donc là j'ai interprété une bombe qui allait s'effondrer dans un océan d'articles, parce que j'ai noté tous les articles. Et c'est bien pour faire comprendre que chaque personne a le droit de faire respecter ses droits, et chaque personne doit respecter les droits d'autrui.
Hugo, alors Hugo fait du rap. Je ne sais pas exactement quelle a été son histoire. Il part demain, donc il est resté ici que 15 jours. Et donc il expliquait qu'il fait du rap et le projet qu'il fait, c'est ça à voir avec les droits d'auteur. Et donc comme il fait du rap, il s'est peint lui-même en train de faire des textes, d'écrire des textes de rap. Et là, il présente une personne qui le regarde derrière la porte et qui veut lui voler ses textes pour faire de l'argent. Alors il y a des dollars et il est écrit fric, fric à côté, voilà. Donc je pense qu'il est assez content de se peindre lui-même.
Et François Shine, life, ça veut dire ?
Life, ça veut dire, je crois que tous les garçons l'ont compris, ça veut dire vie. C'est surtout au pluriel. J'ai mis un S derrière, ça devrait être lives, mais bon, je l'ai mis entre parenthèses. Donc ça permet à ces garçons de comprendre qu'il y a une vie passée, actuelle, future, et surtout plusieurs vies et plusieurs moyens de l'envisager, la vie. Donc c'est, voilà, ça a à voir avec ce qui se passe dans cet endroit depuis toujours, quoi. C'est un endroit de réorganisation de sa vie, de son cerveau, enfin, sont des jeunes en difficulté, on va dire, qui ont fait des petites et grosses bêtises. Ils ont en dessous de 18 ans. Et donc, on parle beaucoup, en fait, de ce qu'ils ont fait. Et on essaye de le projeter dans un des droits fondamentaux, un des droits de l'homme, pour voir ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont exagéré, est-ce que c'est plutôt la police qui a exagéré, comment ça s'est passé. Enfin, ils racontent toute une histoire. C'est à chaque fois un micro-roman. On pourrait, je pense qu'il faudrait inviter ici des écrivains en résidence, parce qu'il y a des histoires incroyables, mais extraordinaires, touchantes, violentes, erronées. Pas des erreurs judiciaires, mais enfin des malheurs de vie, quoi. Ils n'ont pas de chance, quoi, ces jeunes, ça c'est évident. Donc c'est intéressant de faire ça avec eux, je trouve. C'est pas la première fois que je viens ici. Donc je suis déjà venue il y a un an, quand on a commencé le projet, pour faire toute une partie qui est finie. Et je reviendrai encore pour retravailler avec eux. Pour moi, c'est une aventure. Hein. C'est assez extraordinaire, parce que j'aime bien travailler avec des gens, et eux ne sont pas des gens lambda. Ils ont vraiment des histoires à raconter.
Donc je pense avoir bien réussi mon travail sur ces deux articles-là. Puis là maintenant, j'étais en train de travailler sur un troisième article. Mais ça, c'était un article qui n'est pas noté officiellement. Mais je pense que c'est un droit fondamental qui devrait être respecté par vraiment tout le monde. Et un droit qui devrait être même appliqué. Le droit de l'adoption pour tout le monde, que ce soit pour les gays, pour les lesbiennes ou même les bi, trans, que ce soit n'importe qui. On devrait avoir le droit de l'adoption, et même sans devoir obligatoirement le justifier du pourquoi, du comment, et tant qu'on est capable de s'occuper d'un enfant, et tant qu'on a les compétences, ben, je pense que tout le monde a le droit d'adopter. Donc voilà, et celui-là, je l'ai interprété par deux hommes qui sont face à un landau avec un bébé dedans. Et ces deux hommes signifient un couple, donc un couple gay, qui aurait adopté un enfant, vu que malheureusement ils n'ont pas sexuellement les choses qu'il faut pour pouvoir mettre enceinte et porter l'enfant jusqu'à sa naissance.
Et ton parcours à toi ?
Mon parcours à moi, par rapport à ici ? Honnêtement, la première fois que j'ai été en IPPJ, c'était pour bagarre. Et la bagarre a été causée justement à cause de quelqu'un qui n'a pas respecté le droit d'une autre personne. J'avais une amie qui était lesbienne, et il y avait un garçon qui l'a harcelée, qui allait même jusqu'à la violence physique, parce qu'elle avait cette différence-là. Et moi, ayant vu ça, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Et la personne-là, j'ai été la voir plusieurs fois, donc la personne qui faisait du mal à mon ami, j'ai été lui parler plusieurs fois très calmement, posément, comme une personne très respectueuse et très courtoise. Je voulais juste lui expliquer comme quoi c'était des choses qui ne se font pas, parce que chacun a le droit d'être heureux, comme je l'ai dit, comme il le veut, avec qui il veut. Et malheureusement, cette personne n'a pas compris, et aujourd'hui j'ai le regret, mais sur le moment c'était la meilleure chose à faire. La violence ne résout rien, mais pour certaines personnes il faut l'appliquer.
Oui, car François Chêne, on vous connaît comme travaillant la question du processus.
C'est-à-dire que travailler en atelier, j'ai commencé à travailler en atelier. J'ai fait des grands projets, des stations de métro, j'étais toute seule pour faire ça, mais j'avais des assistants. Parce qu'il fallait beaucoup étudier, rechercher de la documentation, etc. Et j'ai donné beaucoup de place à mes assistants, qui étaient souvent des jeunes étudiants. Et j'ai trouvé très intéressant tout ce qu'ils avaient à dire, même leur style parfois. Et donc petit à petit s'est créé dans ma manière de travailler un ensemble, une équipe, je dirais, avec d'autres personnes. Et je trouvais que c'était de plus en plus intéressant de donner la place à des gens, de pouvoir rentrer dans le travail d'un artiste. Alors je fais une grosse différence entre l'art collectif et l'art participatif. C'est pas de l'art collectif. Dans le sens où chacun ne fait pas tout ce qu'il veut et puis on met tout l'un derrière l'autre et on voit ce que ça donne. Non, c'est de l'art participatif dans le sens où je leur donne une place, où ils rentrent dans mon travail, ils deviennent un petit peu mes pinceaux, mes couleurs, avec leurs idées, et on en discute. Ils participent avec moi. Je ne m'élimine pas de mon propre travail, évidemment. Mais je ne les élimine pas, eux, non plus. Donc je leur donne des lieux précis dans lesquels ils peuvent travailler, ce que j'appelle d'ailleurs des invitations, qui sont des espaces un peu comme des bulles ou des assiettes dans d'autres cas quand c'est des banquets. Enfin, je délimite un espace dans lequel eux travaillent. Ils amènent une idée, un concept. On rediscute si ça marche dans l'ensemble du projet. Parfois j'y remets la main aussi pour finaliser ou affiner des mains peut-être parfois trop malhabiles, mais parfois j'y touche pas du tout, c'est très variable.
Qui est Françoise Chaen pour toi?
De base, honnêtement, je la connaissais pas du tout.
Non, mais maintenant?
Une artiste, mais quelqu'un de particulier, mais surtout quelqu'un de très intelligente et qui a franchement une imagination débordante et une énergie à revendre. Honnêtement, par rapport à moi, elle n'est pas très jeune, mais franchement, pour quelqu'un de son âge et...
Vous dites, Françoise Chaen, droits de l'homme?
Oui, droits humains, je dis plutôt.
Et de sa façon d'être, franchement, je suis bluffé, parce que je ne m'attendais pas à ça quand on m'a dit « oui, il y a une artiste qui va venir ». Moi déjà, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus jeune. Et quelqu'un qui avait de la dynamisme, la dynamique, elle en a beaucoup à revendre. Et surtout...
Quand je travaille ou bien dans des écoles secondaires ou dans un endroit comme celui-ci qui est quand même très très particulier, chacun de ces jeunes a une histoire difficile. Ils ont fait des bêtises, entre guillemets, grosses et petites. Donc c'est intéressant que eux-mêmes, c'est pour ça que je suis là, eux-mêmes puissent... comprendre des questions de citoyenneté et de rapport à la société en général et leur vie. Où est-ce qu'ils sont dans leur vie par rapport à cette société-là? Et ce n'est pas évident du tout, sachant d'où ils viennent et la culture, d'où ils viennent, le langage qu'ils ont acquis ou pas, parce que nombreux n'ont pas acquis suffisamment de mots que pour tout simplement penser des choses plus élaborées. Donc travailler autour de ces textes, c'est vraiment intéressant parce qu'on les décortique, je dirais, un par un, chaque jeune travaille un article, c'est suffisant. On essaie de faire réfléchir chacun d'eux à une histoire de vie qu'ils ont connue, qu'ils projettent dans cet article. Ça devient un exemple. Ils deviennent l'exemple de cet article dans leur vie quelque part, à un certain moment.
Ça se voit qu'elle est passionnée. Et moi, en étant déjà, je dirais pas un artiste, mais étant déjà quelqu'un qui pratique l'art sous certaines autres formes, comme la musique ou même l'écriture en elle-même, franchement, ça, c'est très enrichissant de travailler avec quelqu'un comme Françoise Chaen. Parce qu'elle nous fait voir des perspectives différentes et nous fait découvrir même certaines choses. Par exemple, hier, après ma journée de travail avec elle, elle m'inspirait, honnêtement. Je suis rentré dans ma chambre au soir et j'ai repensé à la journée. Et franchement, ça m'a inspiré. J'ai continué à écrire quelques lignes d'un de mes textes. Et franchement, par rapport à l'inspiration qu'elle m'a donnée, je trouve que ça donne plutôt bien.
Tu as quel âge?
J'ai 16 ans.
Quand il y en a qui ont tenté de se suicider, sauter du 4e étage... rentrer dans des vitrines pour démolir des magasins, ils se retrouvaient dans le coma à l'hôpital pour 5 centimes. Enfin, c'est des histoires de fous parfois, hein, des histoires très très dures. Mais quand ils arrivent à le dire, pour en faire de l'art, c'est pas juste le dire, parce que moi je suis pas une assistante sociale, c'est justement pour montrer que c'est une histoire de vie qui est difficile et c'est aussi une histoire humaine, tout simplement.
dans sa difficulté, comme elle peut aussi amener à d'autres choses de bonheur plus tard. Et le fait de transformer ça en une histoire, cette histoire arrivée à la dessiner, relativement simplement, pour qu'elle soit lisible par quelqu'un d'autre qui sera le spectateur plus tard dans un an ou deux ou six mois, c'est tout un processus de compréhension à la fois de sa vie, de la société, et puis il y a de la technique de céramique, ça c'est encore très très particulier. Pourquoi je l'utilise, j'ai des raisons très précises de faire ça, d'utiliser ça plutôt qu'autre chose. Et donc il y a un ensemble de techniques et de philosophies qui se mélangent pour arriver, je dirais pas que je solutionne leur vie, hein, mais en tout cas ils arrivent à s'exprimer, ils sont très heureux. S'il faut leur demander, directement, je pense que c'est... En général, ils arrivent le matin, « Madame, je ne sais pas dessiner », ils ressortent le soir, « Waouh, je l'ai fait ». Alors évidemment, on est derrière, on les encage, j'ai deux assistantes, on les aide, mais quand même, c'est leur trait, c'est leurs idées, c'est leur main qui l'a fait.
...95% des jeunes qui sont ici, ce sont des jeunes qui vivent des situations extrêmement compliquées dans leur vie familiale et sociale. Ce sont des jeunes qui rencontrent presque toutes les souffrances qu'on peut imaginer en termes d'absence de soutien. Ce sont des familles déstructurées, ce sont des familles avec des handicaps sociaux, psychiques, psychologiques. Ce sont des familles éclatées, évidemment. Éclatées, recomposées, souvent où il manque le père, la mère, décédés ou pas. Des parents qui souvent eux-mêmes n'ont pas trouvé de place dans la société. Des familles quand même aussi souvent peu investies dans l'éducation de leurs enfants et finalement qui se retrouvent fort livrées à eux-mêmes, à qui on peut imaginer qu'on n'a pas donné le goût d'une insertion positive dans la société, donc qui sont fort livrées à eux-mêmes et choisissent alors la facilité.
Et Dominique Hélin, la raison pour laquelle je me trouve ici, outre la question de l'architecture et du projet d'extension du site, c'est aussi la rencontre d'une artiste importante, Françoise Chêne.
En fait, quand on a évoqué la restructuration de l'IPPJ, on nous a informé qu'il y avait une partie qui pouvait être consacrée à l'intégration d'une œuvre d'art. La proposition a été lancée et je l'ai saisie. J'ai réfléchi à qui on pourrait inviter pour faire cette œuvre d'art ici. Et j'avais entendu parler de François Chêne. L'œuvre que je connaissais, évidemment, c'était la station de métro du Louvre à Paris. Connaissant son intérêt pour les droits de l'homme, et ça faisait référence évidemment aux droits des enfants dont on se préoccupe vraiment beaucoup ici. Connaissant aussi son goût pour les populations en difficulté, je me suis dit que tout était réuni pour essayer de l'inviter. J'ai pris mon crayon et une feuille de papier, ou plutôt mon ordinateur, et je lui ai envoyé la demande, la proposition. Contrairement à ce que des personnes autour de moi à qui j'en avais parlé m'ont dit, mais François Chêne, tu imagines, à Frépont, j'ai dit, on va essayer, pourquoi pas. Le surlendemain, elle m'avait répondu. Et donc elle était enthousiaste, c'était une chance extraordinaire, ça correspondait tellement bien. En plus c'était un projet participatif et son histoire est faite de projets participatifs. Donc ça m'a semblé vraiment être la personne idéale et c'est une joie vraiment de la voir ici.
Daniel Delco.
François Chêne intervient ici dans ce qui est appelé l'intégration d'œuvres d'art. Et ce qui est vraiment excessivement intéressant dans le travail qu'elle mène ici, c'est qu'on sort de la production d'un objet, d'une œuvre d'art au sens peut-être classique ou parfois un peu simpliste de l'expression. Elle propose un travail dans lequel les jeunes sont réellement impliqués, c'est-à-dire que Françoise a proposé bien sûr la thématique, c'est elle qui coordonne, mais ce sont les jeunes qui dessinent, ce sont les jeunes qui non seulement dessinent, mais aussi sont les jeunes qui interprètent à leur façon un des articles de la Charte des droits humains. Et l'ensemble de ces contributions des jeunes va constituer une grande fresque qui va être incorporée principalement sur un des murs du château d'origine, mais également sur le mur qui accompagne le mouvement des jeunes lorsqu'ils rejoignent l'espace des repas, sur quelques micro-lieux à l'entrée des lieux d'hébergement où il y aura un banc sur lequel les jeunes pourront s'asseoir. Ce sera un lieu complémentaire. Et sur le dossier, on retrouvera également une part de ce travail qui est donc mené par François Chen, mais avec l'implication véritable des jeunes dans la production. Et donc, j'incite vraiment, pas seulement dans la production de quelque chose qui aurait été décidé par quelqu'un d'autre, mais qui est véritablement une interprétation authentique des jeunes par rapport à une question qui touche aux droits humains, et c'est évidemment fondamental dans un lieu comme celui-ci, puisque les jeunes qui arrivent ici ont presque inévitablement frôlé avec cette question des droits humains, frôlement qui a conduit à la décision du juge.
Je l'ai observé, j'ai travaillé un peu à ses côtés, j'ai essayé de faire ce que je pouvais.
Immanquablement un processus qui est long, un projet d'architecture, mais je pense qu'il y a une autre perception de l'expression du processus dans le sens où il y a au long d'une série d'étapes un processus dans lequel l'autre est accepté, invité à faire partie du développement du projet.
Son intégration est tellement facile avec ces jeunes qui sont difficiles et des jeunes aussi qui ne sont pas a priori sensibles à l'art. À mon grand regret, c'est quand même un domaine qui n'est pas extrêmement exploité dans l'institution ici, et elle a cette capacité à accrocher les jeunes, leur permettre d'aller chercher des choses au fond d'eux qu'on ne soupçonnerait pas et qui donnent des résultats vraiment très très intéressants.
J'ai l'impression que la première fois où je suis venu et où j'ai circulé dans le lieu, j'ai des photos de mes pieds sur différents espaces de ce site. J'ai l'impression que là, on pouvait commencer déjà à parler d'un processus par le fait de convoquer le lieu, ensuite de rencontrer les jeunes et d'essayer de comprendre comment essayer d'élaborer des espaces qui puissent être à leur service.
Les mauvais choix, c'est voilà, aller dealer, aller braquer, ben c'est pas toujours bien, mais on apprend ici, surtout avec Madame Françoise Chen, que même si on a fait les mauvaises choses, il faut savoir apprendre de ses problèmes, apprendre de ses torts et travailler dessus pour aller de l'avant.
C'est ce que tu fais.
Oui, oui.
Quel âge as-tu ?
17 ans.
Et après, ici, dans la vie, tu as une idée de ce que tu veux faire ?
En octobre, je vais en Afrique, 3 mois pour l'humanité. Et quand je reviens ici, je serai majeur. Et à voir comment ça se passe en Afrique. Je vais peut-être faire un service militaire ou peut-être retravailler en restauration. Mais plus faire de bêtises, rester droit. Et partager aux gens que c'est pas seulement en faisant des conneries, des braquages, d'idylles qu'on peut réussir et avoir de l'argent.
Tu joues aussi au basket ?
Oui, un petit peu.
Les bâtiments s'implantent en fonction de la topographie, en fonction des liens, des mouvements des jeunes. Par exemple, là, au niveau inférieur, c'est l'espace de l'équipe technique d'entretien du site. Et donc, on a délibérément installé cet espace là-bas parce qu'il permet de dissocier le flux vers ce lieu-là des flux des jeunes qui, eux, vont de l'espace hébergement à la salle à manger, à l'école, aux ateliers, à la salle de sport. Et par contre, de façon distincte, il y a cet accès technique pour les ouvriers qui entretiennent le site, mais également pour les livreurs qui amènent des matériaux.
Architecture. Institution publique de protection de la jeunesse à Frépont. Avec Dominique Hélin, directrice. Daniel Delgoff, architecte. Françoise Chen, artiste, ainsi que des jeunes de l'institution.
Les différents ateliers dessinée aux jeunes, propose aussi des orientations qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais qui proposent aussi des rapports au paysage qui sont différents. Et donc, qui font que là aussi, au long de la semaine et de la journée, la perception que le jeune peut avoir de l'univers est renouvelée, tantôt à la hauteur des fougères de l'humus, où on peut sentir l'odeur du sous-bois, tantôt au niveau de la canopée des arbres, tantôt avec des regards vers le paysage plus lointain. Tantôt avec des vis-à-vis, tantôt en préservant l'intimité et toujours en veillant à éviter des regards vers l'espace du sort, c'est-à-dire l'espace où là les jeunes sont réellement enfermés, pour éviter un rapport dur à ce lieu-là. Et à cet égard, on a à la fois les orientations des ouvertures qui sont choisies, et en même temps avec les paysagistes, qui sont Sébastien Hochet, Virginie Pigeon, on a un travail sur les plantations qui vont aussi amener des filtres, qui vont compléter toute cette réflexion pour que ce grand vide soit un vide de plaisir ou de détente, ne soit pas un vide de confrontation avec un univers d'enfermement.
Architecture, IPPJ de Frépont par Thierry Genico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Retrouvez Paroui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.